Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 26 août 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Très sérieux, au sujet des questions de sauvegarde en suspens, Téhéran ne tolère pas la répétition par l'AIOA des accusations sans fondement. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, nous sommes dans les dernières étapes de la levée des sanctions, déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. L'accent mis par l'Iran sur une position ferme des pays vis-à-vis d'Israël lors de la 10e conférence d'examen du traité de non-prolifération d'armes nucléaires, TNP. Et puis, la présence américaine en Syrie est illégale et condamnée, a déclaré Téhéran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran se dit proche de la phase finale de la levée des sanctions. Nous avons fait beaucoup d'efforts au sein du 13e gouvernement pour faire lever les sanctions et nous traversons aujourd'hui les dernières étapes à cet effet, a déclaré ce vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian avant d'appeler une fois de plus les États-Unis à faire preuve du réalisme. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré le fait que les questions en suspens dans les pourparlers sur la relance de l'accord de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjoint, peuvent être résolues si et seulement si les États-Unis adoptent une approche réaliste. Hossein Amir Abdollahian affirme que l'appareil diplomatique iranien est dans la phase finale de la levée des sanctions contre son pays. L'Iran et les États-Unis entretiennent une correspondance indirecte pour restaurer le PGAC qui est en agonie depuis le retrait unilatéral de Washington en 2018 du pacte multilatéral et l'échec des Européens à honorer leurs engagements liés à l'accord envers l'Iran. Amir Abdollahian, qui est en visite en Afrique, a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le président de Zanzibar, Hossein Mouaini. Soulignant à cette occasion que l'Iran est l'un des principaux pays du monde dans les domaines de la médecine, des industries de haute technologie et d'autres sciences, et cela malgré les sanctions, Amir Abdollahian a dit que Téhéran était prête à partager son savoir-faire et sa technologie avec les pays africains. Il a également exprimé la volonté de l'Iran de coopérer avec les Africains dans l'extraction de pétrole et de gaz. Pour sa part, Mouaini a exprimé l'intérêt de Zanzibar pour le commerce avec l'Iran et les investissements. en mini-tournée africaine, Amir Abdollahian a visité le Mali avant de se rendre en Tanzanie, où il a souligné que le développement des liens économiques avec les pays africains était l'une des priorités de la politique étrangère de l'Iran. Conversation téléphonique entre Amir Abdollahian et Antonio Guterres, le chef de la diplomatie iranienne et le secrétaire général des Nations Unies, lors d'un appel téléphonique tenu à l'initiative du secrétaire général concernant certaines questions d'intérêt commun régional et international, notamment la conférence sur le traité de la prolifération d'armes nucléaires, ainsi que le processus des négociations sur les sanctions, ont discuté et échangé des points de vue. Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, lors de cette conversation téléphonique, en réponse à l'accent mis par Antonio Guterres sur la nécessité d'un consensus lors de la réunion du TMP, a déclaré « Le président de la récente conférence du TMP, en ignorant malheureusement les résolutions des conférences de 1995, 2000 et 2010, notamment dans le cas du Moyen-Orient, qui exhortait toujours le régime israélien à adhérer au TMP et placer ses installations nucléaires sous la protection de l'agence, a abandonné toutes les réalisations des conférences précédentes, ce qui est inadmissible. Amir Abdollahian a également souligné à propos des négociations sur la levée des sanctions, les États-Unis ont répondu aux exigences de la République islamique d'Iran hier mercredi et maintenant mes collègues Dixit l'examinent. Le très haut diplomate iranien a ajouté « Nous avons souligné à toutes les parties que le règlement des problèmes politiques et monté de toutes pièces liés aux accords de sauvegarde et de garantie sont une nécessité fondamentale. Nous avons une volonté sérieuse et réelle de parvenir à un accord solide et durable et nous l'avons démontré dans la pratique », a-t-il encore ajouté. Amir Abdollahian a également remercié les efforts constructifs du secrétaire général des Nations Unies pour contribuer à la paix et à la sécurité mondiale. Pour sa part, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors de cette conversation téléphonique, tout en soulignant la nécessité d'un consensus en faveur d'un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a souligné qu'il examinerait les préoccupations de la République islamique et y prêterait attention. M. Guterres, qualifiant le processus d'accord sur la levée des sanctions et la relance du PGAC en agonie de positif et appréciant les efforts et les positions constructives de la République islamique d'Iran à cet effet, a exprimé l'espoir que les pourparlers de Vienne aboutissent par un résultat tangible et satisfaisant. Sachez également que l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a dénoncé le refus d'Israël d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire. Majid Tartravanchi a dénoncé le fait qu'Israël, qui possède des ogives nucléaires, refuse toujours de signer le traité de la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. Le diplomate a également déploré que le régime continue à ignorer les appels à l'inspection de ses installations nucléaires par l'ONU, soulignant l'importance d'un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires. Majid Tartravanchi s'exprimait à l'occasion de la 10e conférence d'examen des parties au traité de la non-prolifération des armes nucléaires. Israël poursuit une politique d'ambiguïté délibérée sur son programme d'armes nucléaires. On estime que le régime possède entre 200 et 400 ogives nucléaires dans son arsenal, ce qui en fait le seul détenteur d'armes non conventionnelles dans la région du Moyen-Orient. L'entité occupante a jusqu'à présent refusé d'autoriser les inspections de ses installations nucléaires militaires ou de signer le traité de non-prolifération. Conversation téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue qatari. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a eu jeudi un entretien téléphonique avec son homologue qatari. Au cours de la conversation téléphonique, le jeudi 25 août, entre les deux hauts diplomates, Hossein Amir Abdollahian et le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Sani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, les deux hommes ont discuté discuter des derniers développements liés aux négociations sur la levée des sanctions. Ils se sont également penchés sur des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. L'Iran a critiqué la récente attaque des États-Unis contre les forces syriennes et les groupes antiterroristes en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné la violation par Washington de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le diplomate a déclaré que la présence des forces américaines en Syrie était illégale, rejetant les allégations américaines selon lesquelles l'attaque visait à protéger les forces américaines en Syrie. Le 23 août, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes et d'artillerie dans l'est de la Syrie, tuant 4 personnes. Le président américain Joe Biden a prétendu que les forces militaires US avaient attaqué des installations utilisées par des combattants liés à l'Iran. Téhéran a nié les allégations. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, réagissant toujours aux évolutions, a déclaré « Les États-Unis ont qualifié les récentes attaques contre les groupes populaires et les forces antiterroristes syriens de réponses directes aux attaques et menaces continues contre les forces américaines. Mais la vérité, c'est que le principe de la présence des forces occupantes US en Syrie et leur agression contre l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie est illégal et condamné. » Autre thème, des recherches récentes ont révélé des détails sur ce qui semble avoir été des campagnes de désinformation américaines de longue date visant l'Iran, la Russie et la Chine sur les plateformes de médias sociaux, ainsi que l'utilisation de dizaines de faux comptes pour propager des récits pro-occidentaux. Selon une étude menée par des chercheurs de l'Observatoire d'Internet de Stanford et de la Société de recherche Graphica, les opérations d'influence secrète pro-américaine ont duré près de 5 ans et ont utilisé des tactiques trompeuses pour façonner l'opinion publique au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les comptes, à l'origine des opérations, se faisaient souvent passer pour des organes d'information ou créer de fausses identités, publiant du contenu dans au moins 7 langues, dont le persan, le russe, l'arabe et l'ourdou. Dans certains cas, les comptes ont partagé des articles de presse de médias financés par Washington, notamment Voice of America et Radio Free Europe, et des liens vers des sites web gérés par l'armée américaine. Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré que le pays d'origine des comptes était les États-Unis, tandis que Twitter a déclaré que les pays d'origine présumés des comptes étaient les États-Unis et la Grande-Bretagne, selon le rapport. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Sérieux au sujet des questions de sauvegarde en suspense, Téhéran ne tolère pas la répétition par l'AIEA des accusations sans fondement. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, réagissant ce jeudi aux évolutions liées aux négociations sur la levée des sanctions et la relance de l'accord en agonie nucléaire de 2015, a déclaré « Nous sommes très sérieux au sujet des questions de sauvegarde et de garantie restées en suspense et nous ne tolérons en aucun cas que certaines des accusations sans fondement proférées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, se répètent au rythme des désidératas israéliens et de concert avec le régime sioniste. » Des efforts doivent être faits pour neutraliser les sanctions et stimuler et développer l'économie du pays, sans compter autant sur la relance du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, PGAC, ou JCPOA, selon son acronyme officiel anglais. Pourquoi adopter une telle politique en premier lieu ? Car, en supposant que dans quelques jours ou quelques semaines, notre accord atteindra un point final et que tout fonctionnera dans une certaine mesure, ce sont les sanctions secondaires qui seront supprimées et non pas les sanctions primaires. Ces dernières resteraient en place dans le cadre du JCPOA, a dit Amir Abdullahian. Et d'ajouter, le gouvernement est déterminé à poursuivre le programme de développement économique durable axé sur la neutralisation des sanctions. Mais parallèlement, nous avons suivi le chemin des négociations au cours des derniers mois. Nous sommes maintenant à un point où nous avons reçu la réponse de la partie américaine à nos propositions écrites par l'intermédiaire du coordinateur de l'Union européenne. Au cours des derniers mois, nous avons fait beaucoup de progrès dans les discussions et le retouche du texte et nous avons transmis nos derniers points de vue à la partie américaine. Sur certaines questions, il aurait fallu mettre davantage l'accent, ce qui a été fait, a-t-il fait encore savoir. Amir Abdullahian a poursuivi. Hier, nous avons reçu la réponse de la partie américaine. Nous examinons et analysons actuellement le dernier texte qui est sur la table et la dernière réponse que nous avons reçue. Nous sommes très sérieux au sujet des questions liées aux accords de sauvegarde restés en suspense et nous ne voulons en aucun cas que dans une situation où toutes les parties reviennent au JCPOA, certaines accusations politiques et sans fondement de l'Agence internationale de l'énergie atomique contre la République islamique d'Iran et alimentées par le régime sioniste à la moindre occasion désirée persistent. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite poursuivi « En insistant sur nos lignes rouges, nous espérons que la partie américaine sera aussi pour sa part sérieuse dans ses engagements liés au pacte. Et si nous parvenons à un accord convenable à l'issue de nos examens, nous espérons qu'en plus de nos efforts pour neutraliser les sanctions initiales qui restent en place, toutes les parties reviendront à un accord en faveur de la levée des sanctions. C'est ainsi que nous pouvons approcher de la phase finale des négociations et de les faire aboutir, a-t-il dit. Tant que nous ne serons pas sûrs du respect par l'autre partie de nos lignes rouges et des intérêts du peuple iranien, nous ne participerons pas pour l'étape suivante, a conclu le très haut diplomate iranien.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat. Alors, à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours dans lequel il a tracé toutes les lignes et les politiques importantes et les lignes rouges surtout du Hezbollah libanais, aussi bien dans les politiques intérieures du Liban qu'internationales. Il a effectivement évoqué plusieurs points importants, à savoir les évolutions de la région, surtout en ce qui concerne les tensions avec Israël, non seulement sur la zone contestée de Karish, mais sur divers points qui concernent les évolutions du Moyen-Orient. Il a évoqué également les relations avec l'axe de la résistance, l'Iran et les autres pays de cet axe. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous allons évoquer les divers points et les points importants de ce discours avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé à ce sujet par mes collègues et on revient tout de suite après.
Son 40e anniversaire, le Hezbollah l'a célébré de façon bien singulière. Une reconstitution hologramme de son très grand commandant martyr, Imad Mughniyeh, a donné le ton pour cette cérémonie qui a eu lieu à peine à une dizaine de jours de l'échéance fixée par Nasrallah, au-delà de laquelle le Karech et autres sites gaziers israéliens seront visés si le Liban ne recouvre pas son droit d'exploiter ses richesses offshore. Dans un discours particulièrement attendu dans la région ainsi qu'à Tel Aviv et à Washington, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s'est livré à tracer non seulement les grandes étapes du parcours du mouvement depuis sa naissance en 1982, une naissance très fortement marquée par les idéaux du défunt fondateur de la République islamique, l'imam Khomeini, jusqu'à son émergence à titre d'un acteur non seulement étatique d'une puissance régionale, mais il a décrit la place du mouvement au sein de l'axe de la résistance, laissant entendre que toute confrontation anti-Israël à venir pourrait voir la contribution aux côtés du Hezbollah d'autres composantes de la résistance. Pour Nasrallah, la bataille qui s'annonce proche en Méditerranée est la victoire de l'an 2000 année où l'entité a fui le sud Liban et où son mythe d'invincibilité s'est effondré à jamais. Cette guerre prolongerait aussi la victoire de 2006 où le Hezbollah a définitivement fait son entrée dans la ligne de la défense des droits souverains des Libanais qui couvre évidemment les droits pétroliers et gaziers du Liban et que personne ne se trompe pas. Ce sont des droits à se faire restituer à n'importe quel prix et les matraquages médiatiques des campagnes de diffamation et d'injures anti-Hezbollah n'y changeront rien. Au fait, la victoire de 2006 a débouché sur une constante et irréfragable équation armée-peuple-résistance et c'est cette même équation qui a changé littéralement les règles de guerre avec l'entité sioniste.
Merci d'être avec nous. Nous allons alors analyser les points importants de ce discours à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais. Alors nous avons deux invités, Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban, donc qui est avec nous en direct de Beyrouth, mais également Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Alors, Madame Oubala, on commence avec vous si vous voulez bien. Donc, vous êtes au Liban, à Beyrouth, vous êtes géopoliticienne et vous suivez de très près les évolutions du Liban, mais également les politiques du Hezbollah libanais. Dans un premier temps, quel point faudrait-il retirer et se souvenir en fait de ce discours important du Seyed Hassan Nasrallah?
Oui, alors d'abord, je vous remercie pour m'avoir encore une fois invité sur votre plateau.
Merci
sur votre plateau. Et je salue entre autres également votre invité. Pour répondre à votre question, alors le secrétaire général du Hezbollah, à travers son discours, a adressé deux messages. Un message politico-militaire à l'intérieur et à l'extérieur, aux alliés, aux amis et aux ennemis. Et je me suis concentrée sur le message purement culturel, dans le contenu et dans la forme. Parce que ce discours était en fait encadré. Et c'est pour la première fois, je commence par le côté culturel, parce que pour la première fois, l'outil culturel est utilisé en tant qu'outil géopolitique. Mmh. Durant ces dernières années, c'est-à-dire ces quatre dernières années, le Hezbollah était la cible, et surtout ces derniers mois, après la victoire du Hezbollah aux dernières élections législatives, d'une campagne sur sa culture, sur sa littérature. Beaucoup de forces libanaises, de médias, d'intellectuels libanais ont accusé le Hezbollah d'être différent, voire étranger de la culture libanaise, de la nation libanaise, alors qu'il n'y en a pas, des traditions du Liban, etc. Et donc là, dans ce festival, en fait, son discours s'inscrit dans la célébration, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, des 40 années du Hezbollah, qui était baptisé 40 printemps. Un festival central a été organisé dans la banlieue sud, au cours duquel ont été diffusées plusieurs vidéos, dont certaines reprenant les chants révolutionnaires sur l'action résistante militaire de la résistance islamique. Mais surtout, ce festival s'est achevé par une scénographie panoramique multimédia intitulée « L'alphabet de la victoire », qui raconte l'histoire de ces 40 ans de la résistance au Liban. Et cette mise en scène a été réalisée par l'unité des activités médiatiques du Hezbollah. Donc, oui, le Hezbollah a montré tous les exploits de la résistance islamique dans un cadre purement culturel. Il a utilisé des techniques très poussées comme les hologrammes, et jamais aucun festival de toutes les parties libanaises n'a entamé une telle expérience. C'est le premier parti, qui en plus est un parti doctrinal, qui a documenté ses exploits de cette manière. Donc là, j'ai terminé le côté culturel. Par rapport à son discours, alors il a divisé son discours. Il a commencé, bien entendu, par la lutte contre l'entité sioniste. Oui. Bien entendu, il a rappelé les exploits, les principaux étapes historiques, mais surtout, ce qu'il faut noter de nouveau, deux points, un sécuritaire militaire et un autre qui est lié à l'arsenal militaire. Il a bien souligné que dans cette ère du 21e siècle, il y a une révolution technologique, il y a de nouvelles armes de haute qualité. Tout comme l'entité sioniste ne cesse de se moderniser et de se renforcer, nous aussi, nous allons poursuivre notre voie, notre progression au niveau des armes de notre arsenal balistique. Donc, la résistance compte poursuivre son évolution, voir ses performances et les renforcer. Et un autre point concernant les hameaux de Sheba, où il a bien souligné que malheureusement, il y a encore une terre occupée par l'entité sioniste au Liban et que nous avons exécuter quelques opérations de résistance dans le cadre de rappeler le gouvernement libanais qu'il est de son devoir et de sa responsabilité de demander à la communauté internationale, à l'ONU, de libérer ces terres. Personne ne répond au Liban, personne oui. au Liban n'a fait un tel geste, et donc il a bien déclaré que nous allons revoir notre position à ce sujet. Donc, ce qui veut dire qu'il compte peut-être réengager la résistance islamique mm-hmm. dans la libération de ces terres. Mm-hmm. Donc ça, c'était au niveau de la lutte contre l'entité sioniste. Et bon, je vais résumer très vite tout le discours. Oui. Alors, juste trois points. Il a bien souligné son soutien à la Syrie. Il a remercié le président Bachar al-Assad et feu le président Hafez al-Assad. Mais ce qui est nouveau dans son discours, c'est que il a bien souligné qu'aujourd'hui, il l'a dit trois fois, c'est nous qui soutenons la Syrie. Mmh. Okay, certes, oui, il a mis dans le cadre que c'est que en fait, on est en train de c'est normal en tant qu'allié, mais bon, cela signifie que nous avons désormais les capacités à le faire. Ensuite, il a bien souligné concernant les factions de résistance palestinienne que la coordination était toujours présente, qu'elle l'est toujours, qu'elle se poursuivra avec toutes les factions. Et enfin, il a déclaré que nous avons renforcé, il a dit le Hezbollah a renforcé l'axe de la résistance dans la région. Ces trois points que j'ai soulignés, soutien à la Syrie, coordination avec les factions de la résistance palestinienne, renforcement de l'axe de la résistance, cela veut dire une seule chose, que désormais le Hezbollah est la fer de lance et le fer de lance de l'axe de la résistance. Mmh. Voilà.
Merci pour vos explications, Madame Oubala. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Madame Idani, Madame Oubala vient de résumer le discours de Seyed Hassan Nasrallah, mais l'un des points importants auxquels Seyed Hassan Nasrallah a évoqué, en fait, dans ce discours, était la normalisation des pays du Golfe Persique avec Israël. Et selon Nasrallah, l'un des objectifs d'Israël dans l'affaire de Karish et les contestations sur cette zone pétrolifère et de pousser le Liban dans les bras d'Israël. D'abord, que pensez-vous en général de ce discours, mais surtout de ce point important?
Alors effectivement, ce discours est un point d'inflexion stratégique et important parce que non seulement Il présente effectivement les acquis, les réalisations de la résistance libanaise depuis 1982, donc depuis 40 ans, son évolution sur le terrain, dans la libération des terres libanaises, donc dans les différentes batailles et les différentes étapes de libération, la dernière ayant été celle de la libération des Jouroudes du Qalamoun, de Arsal, en fait, de Daesh, et ceci donc en coordination avec l'armée libanaise et l'armée syrienne, mais aussi donc jusqu'à présent donc son engagement à fond dans cette lutte pour non seulement la libération des territoires, mais aussi la capacité, la nécessité pour que le Liban puisse disposer de ses richesses. Et là-dessus, il s'est montré complètement intransigeant vis-à-vis non seulement des Israéliens, mais vis-à-vis aussi des États-Unis et vis-à-vis de tous ceux qui soutiennent Israël, qui pourrait être à l'intérieur ou à l'extérieur, comme l'Arabie saoudite et tous les autres. Donc ça, c'est un point très, très important. Le deuxième point très important que j'ai relevé, c'est le passage à une construction de l'État libanais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une étape de défense et d'aide, effectivement, de la population. Mais maintenant, on va passer à la construction d'un État souverain, fort et riche de ses richesses, de l'exploitation de ses propres moyens, et donc qui s'opposera à toute agression et à tout manquement dans ce sens qui voudrait de tous ceux qui veulent mettre la main sur l'indépendance de la décision politique libanaise et de sa souveraineté. Donc là-dessus, il y avait un message effectivement à l'Arabie saoudite, un message à tous les pays, aux États-Unis, bien entendu. Cette ambassade américaine qui est à l'intérieur du Liban s'arroge tous les droits pour aller voir tous les ministres, etc., et va discuter dans les détails de ce qu'il faut faire. Donc là, effectivement, le Hezbollah montre très clairement son intention de stopper, de mettre le holà à toutes ces pratiques extérieures, aussi bien donc les américaines que saoudiennes, que Qatari, que autres pays arabes qui pourraient, ou autres pays comme la France et l'Angleterre. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde importante, mais aussi une déclaration importante du programme à venir. Pour ceci, non seulement il dit que nous avons toute la puissance militaire pour le faire, mais la question, ce n'est pas seulement la puissance militaire, c'est aussi la puissance idéologique, c'est aussi les générations à venir qui sont formées effectivement à cette idée d'indépendance et de souveraineté du pays. Et là, nous, depuis 40 ans, nous œuvrons à ça, et les générations à venir, nous comptons sur elles et pour la construction de ce pays. Et ça, c'est un point très, très important, que d'un autre côté, nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir, là, s'adressant à l'État libanais. Nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir avec tous les pays du monde, mais que personne, absolument personne, ne vienne titiller notre souveraineté et nous imposer ses vues sur la politique et sur les positions à prendre. Donc là, c'était un point vraiment très, très important. Dernier point très important qui a été aussi souligné par Mme Boubala, c'est la présence quand même et le développement et la présence et l'intention de continuer à développer les relations avec l'axe de la résistance, dont le Hezbollah est un dirigeant important ou peut-être le créateur, mais aussi dont la Syrie est la pierre angulaire, et l'Iran est aussi un des piliers les plus importants de cet axe de la résistance, qui ne se limite pas ni au Liban, ni à la Syrie, mais qui va à toute la région. Et donc il a parlé du soutien l'Irak dans la lutte contre le terrorisme, du soutien au Yémen, du soutien à la résistance palestinienne, qui est aussi au centre du combat aussi du Hezbollah. Donc, ça, et donc la nécessité de la nécessité et la volonté de continuer non seulement dans ce sens, mais d'accentuer la coordination et la coopération, je dirais, stratégique dans le sens dans cet axe de la résistance qui doit aller d'un renforcement à un autre pour garantir la souveraineté de tous les pays tous les pays et les peuples de la région, et donc face aux agressions répétées à la fois israéliennes et américaines, et aussi de l'OTAN, disons-le, parce que c'est pas seulement américaine. Derrière l'Amérique, il y a derrière les États-Unis, c'est toujours les forces de l'OTAN qui se profilent. On a vu d'ailleurs les positions absolument abjectes de la France au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, où Macron débarque comme dans un terrain conquis, je viens vous aider, etc. Et puis après, qui tient aussi un discours abject face à la classe politique libanaise, comme si c'était des petits enfants dans sa cour de récréation, il les engueule, etc. En fait, il y a un très violent manque de respect et une très violente dégradation de l'autre, je dirais, donc des responsables et puis des responsables politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible, et je pense que l'aspect implicite dans le discours de Hezbollah, de Samahat Cheikh Nasrallah, c'est aussi justement, nous devons être respectés et nous imposerons le respect à tous les pays du monde à travers notre souveraineté et notre fierté nationale. Mmh.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, Madame Moubala, l'un des autres points assez importants dont ce discours a relevé, dont Madame Idani aussi en a parlé, c'est la souveraineté, non seulement la souveraineté du Liban, mais de tous les pays de l'axe de la résistance, à savoir la Syrie, la Palestine occupée. Est-ce qu'à votre avis, si Israël mène et continue et poursuit ses politiques interventionnistes et anti-souverainisme des pays de l'axe de la résistance, il y aurait vraiment un risque de confrontation Israël-Hezbollah?
Un risque de confrontation Israël-Hezbollah à l'instant même où je vous parle, je doute fort, d'abord parce que, de toute façon, comme l'a bien souligné ou rappelé votre invité, que oui, Saïd Hassan Nasrallah a été intransigeant concernant le droit du peuple libanais à explorer et à exploiter son gaz et son pétrole sans demander la permission de quiconque. Et que si on est obligé de s'engager par la force pour obtenir ce droit, nous le ferons. Et c'est la raison pour laquelle il a lancé un ultimatum. Mais en même temps, il a bien souligné que nous attendons la réponse du médiateur sioniste américain, Hochstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour sortir en dehors du discours, je reviendrai plus tard un peu sur la question de la souveraineté, c'est que, à l'heure où je vous parle, les médias israéliens viennent de rapporter, en fait, et dans la nuit de mardi, ils ont rapporté de la part de l'ancien ministre israélien Ayman Rahman, je crois, qui avait commenté justement le discours de Saïd Hassan Nasrallah en disant que Nasrallah travaille à partir de motifs purement libanais et celui qui est responsable doit se préparer et prendre ses menaces au sérieux, mais à la fin, il y aura un accord et il n'y aura pas de confrontation. Donc ça, c'est le discours des Israéliens en apparence, d'accord?
Oui.
Donc, je ne pense pas que l'entité sioniste actuellement est prête à s'engager dans une confrontation avec le Hezbollah, alors que en Europe et surtout les États-Unis, tous les deux, selon leur propre agenda, que ce soit au niveau du gaz, de la crise du gaz et du pétrole, ou bien que ce soit à cause de l'accord nucléaire, et voire il y a des élections également aux États-Unis. Donc, je ne crois pas qu'ils sont prêts justement à soutenir une aventure de la part de l'entité sioniste. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont tenter de pouvoir signer un accord. Bon, ça c'est pour concernant la confrontation, la réponse à la question de la confrontation. Oui. Pour revenir à la question de la souveraineté, comme l'a bien souligné votre invité, en effet, le Hezbollah, je veux dire le secrétaire général du Hezbollah, a rappelé en fait. Concernant la feuille de route du Hezbollah, à savoir que le document politique de 2009, nous avons, il a bien dit que notre vision du Liban, un Liban qui est une patrie définitive de tout son peuple, donc avec les 18 confessions. Mm-hmm. Et il a insisté sur la nécessité d'édifier un État juste et puissant, jouissant d'une vraie souveraineté, d'une vraie indépendance dans ses décisions. Donc, en plus de la souveraineté, oui, qui s'inscrit dans le cadre, justement, d'une délimitation des frontières, etc., également une indépendance dans les décisions. Donc, il n'est pas question, c'est-à-dire il faut faire respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures au Liban, qui est tous les jours violé par la visite et l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis au Liban. Mmh. Et il a rappelé, il a bien souligné dans son discours, de sorte qu'il ne soit soumis à aucune ambassade américaine ni à aucune domination étrangère. Donc, quand il parle de patrie, voire de nation libanaise, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'est pas question de changer la forme de l'État libanais. Donc, ceux qui parlent de confédération, de fédération, pour lui, cette question n'est pas envisageable. Premièrement, oui. Et deuxièmement, oui, il est pour la convivialité, voire que ces 18 confessions puissent vivre ensemble, cohabiter ensemble, parce que le projet du Liban en tant que tel, dans sa forme, est un projet anti-sioniste dans la forme, puisque le régime sioniste ou l'entité sioniste est un régime qui n'accepte que la religion sioniste, pas la religion juive, que le sionisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il insiste sur l'idée de nation libanaise souveraine, c'est-à-dire qui a les capacités de défendre sa souveraineté. Oui. Et enfin, juste un dernier mot, concernant justement les 40 printemps du Hezbollah, le chiffre 40 dans la culture des chiites du Haut-Décima signifie que l'homme ou l'être humain ou toute institution, toute révolution a atteint sa maturité.
Oui, oui.
Et donc, elle peut compter sur elle-même. Et donc, quand il marque ces 40 printemps, la maturité à laquelle le Hezbollah est arrivé, que ce soit au niveau militaire, au niveau politique, comme l'a bien souligné votre invitée, puisqu'elle a rappelé comment le Hezbollah, justement, a réussi à s'intégrer sur la scène politique, et voire il a déclaré Merci. Qu'il comptait le faire encore plus. Mais en plus, il est arrivé à une maturité culturelle.
Oui. Merci pour vos explications. Nous avons une minute devant nous. Madame Idani, si vous pourriez avoir le mot de la fin, on vous écoute.
Mm-hmm. Alors moi, je pense, contrairement à ce que pense Madame Oubala, je pense que les Israéliens, ils prêchent toujours le faux pour prendre les gens en traître. On a bien vu comment s'est passée leur demande de cesser le feu à travers à Gaza et puis en Palestine, en suppliant l'Égypte pour intervenir, pour faire ce cesser le feu après 3 jours avec le djihad islamique. Et ils n'ont rien tenu de tout ça, en fait. À tel point que même maintenant les Égyptiens ne peuvent plus supporter cette utilisation qui a été faite. Aujourd'hui, quand ils font des déclarations en disant on ne peut pas faire de guerre, on ne peut pas faire face, etc., pour moi, c'est aussi prêcher le faux pour prendre les gens en traître. Hein, et c'est leur habitude, c'est toujours on ne veut rien faire, etc. Et puis ils attaquent, mais ils attaquent en masse. Mais pour moi, je pense que le Hezbollah sera prêt. Et s'ils attaquent, c'est aussi effectivement une attaque, une riposte en masse à laquelle ils vont avoir à faire en face. Et puis, ils vont être perdants, même au niveau militaire, malgré toutes leurs tergiversations. et tout leur cinéma, j'allais dire, oui, pour cacher leur jeu.
Merci pour vos explications. Alors, nous avions avec nous Rada Obala, géopoliticienne et docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, comme d'habitude, pour une nouvelle édition du débat. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir et à très bientôt.
Les États-Unis pourraient être au bord de la guerre civile. Le Guardian apporte une analyse qui inquiète les démocrates en Occident. Le Washington Post annonce également que des historiens avertissent en privé Joe Biden que la démocratie américaine vacille. Ces derniers ont comparé la menace qui pèse sur l'Amérique à l'époque d'avant la guerre civile et au mouvement pro-fasciste d'avant la Seconde Guerre mondiale. Selon Chris McGill, l'analyste du Guardian, la violence politique aux États-Unis augmente, mais lui, il se demande si parler d'une guerre civile ne serait pas exagéré. Un état désastreux de la démocratie aux États-Unis. La méfiance envers la démocratie augmente aux États-Unis. Le Guardian sort la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump, comme élément qui a fait ressurgir des salves de menaces de violence contre ceux qui représentent l'État. L'analyste constate que ces menaces ont été en plus dirigées contre les travailleurs électoraux avec l'augmentation des ventes d'armes. La moitié des Américains s'attendent à une guerre civile aux États-Unis dans les prochaines années. Le docteur Garen Wintemout, qui est un expert réputé concernant la crise de santé publique liée à la violence armée, avait, selon le Guardian, l'habitude de se moquer des avertissements d'une guerre civile à venir en Amérique en les qualifiant de discours fous. Il vient de changer d'avis en voyant les chiffres des ventes d'armes aux États-Unis. Le docteur Garen Wintemout, qui a fondé un centre de recherche sur la violence par arme à feu après des années de traitement des blessures par balle, a longtemps observé que la ruée vers l'achat d'armes se produisait par vagues, souvent autour d'une élection présidentielle aux États-Unis, pour retomber juste après. Ce constat valait pour le temps d'avant. En janvier 2020, les ventes d'armes ont décollé. Juste une augmentation sans précédent des achats et cette augmentation s'est poursuivie, a-t-il déclaré, rapporte le quotidien britannique. Aujourd'hui, les citoyens des États-Unis continuent d'acheter des armes. Nous étions conscients que, contrairement aux surtensions précédentes, celles-ci ne se terminaient pas. Les gens achètent encore des armes comme des fous, a-t-il déclaré, spécifiant que beaucoup achetaient une arme pour la première fois. L'expert en criminologie voulait des réponses. Là, le docteur Garen Wintemout a dû voir la réalité. Une enquête menée par son centre californien de recherche sur la violence par arme à feu, qui a été publiée en juillet dernier, montre que la moitié des Américains s'attendent à une guerre civile aux États-Unis dans les prochaines années. Une personne sur cinq pense que la violence politique est justifiée dans certaines circonstances. En outre, alors que presque tout le monde a déclaré qu'il était important que les États-Unis restent une démocratie, environ 40% ont déclaré qu'il était plus important d'avoir un dirigeant fort. L'étude révèle des tendances alarmantes dans les attitudes envers la violence, y compris la violence politique aux États-Unis. L'enquête est la première du genre à explorer la volonté personnelle des participants à s'engager dans des scénarios de violence politique spécifiques. Couplée à des recherches antérieures, ces découvertes suggèrent une aliénation et une méfiance envers la société américaine et ses institutions. Des minorités substantielles de la population approuvent la violence, y compris la violence meurtrière, pour atteindre des objectifs politiques, conclut le rapport du docteur Garen Windmuth. L'expert avertit que la moitié de la population des États-Unis envisage même une telle possibilité. Cela, selon lui, reflète la confiance défaillante d'un grand nombre d'Américains dans un système de gouvernement attaqué par Donald Trump et une bonne partie du Parti républicain. Le Guardian fait savoir que cette tendance ne se trouve pas uniquement parmi l'électorat américain, mais bien à la tête des décideurs des États-Unis, car le sénateur de Floride, Rick Scott, a comparé le FBI à Gestapo. Chris McGallen mentionne que dans les jours qui ont suivi la perquisition de Mar-a-Lago, le FBI et le département de la sécurité intérieure des États-Unis ont mis en garde contre une recrudescence des menaces de violence contre les agents fédéraux et leurs familles. Le FBI a déclaré qu'il s'agissait notamment d'appels à la guerre civile et à la rébellion armée.
Thank you.